Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Au printemps 2010, en quelques jours, un volcan islandais déboule dans l'actualité, les débats, les discussions du monde entier. La prononciation de son nom est en soi un petit défi qui nécessite de bien détacher chaque syllabe. Eyjafjallajökull. Eyjafjallajökull. Ce nom baroque désigne en réalité non le volcan lui-même, mais la calotte glaciaire qui trône en son sommet. C'est la fonte de cette calotte, au moment de l'éruption volcanique, qui fit tant parler à l'époque, puisque les quantités de matière colossale dégagées dans l'atmosphère perturbèrent le trafic aérien dans toute l'Europe. Par sécurité, des milliers de vols durent être annulés le temps que le nuage chargé de matière volcanique se dissipe. L'Europe entière fut donc affectée, mais c'est bien l'Islande qui subit les répercussions les plus marquantes de cette catastrophe naturelle. Population évacuée, retombée de cendres et de gaz toxiques, animaux effrayés, en fuite, tout un équilibre vacilla en quelques jours dans ce pays et cette société, pourtant habituée à ces phénomènes naturels et géologiques extrêmes. Cette émission du 5 janvier 2011 donne la parole à des témoins directs de l'éruption, des Islandais et des Français établis en Islande. C'est un reportage d'Irène Omelianenko et François Test réalisé pour Sur les Docks. En Islande, les gens du volcan, première diffusion de cette émission sur France Culture le 5 janvier 2011.
Eyjafjall, 1927. Torfajökull, 1477. Eyjafjall, 2010. Kverkfjall, 1968. Öræfajökull,
2010. Dans ma tête, c'était un volcan qui était mort.
Katla,
rien du tout, c'était comme un mur, quoi, un rideau.
Déjà l'odeur, 2010. Tu l'entends bien avant de le voir.
Krabla.
Et les oiseaux volaient là-dedans. Ils perdaient leur point de repère. Hein.
1964. J'imaginais jamais, à aucun moment, que j'allais Hekla. Vivre une éruption de ce
4850 avant Jésus-Christ. 2000.
En Islande. Aujourd'hui, les gens du volcan, par François Test et Irène Omelianenko.
Non, mais ça, j'essaye même pas de le dire. Hein.
Non, Eyjafjallajökull, ça veut dire glacier. Fjatla, ça veut dire des montagnes. Et Eyja, c'est les îles.
Eyjafjallajökull.
Eyjafjallajökull.
Alors, Eyja.
Eyjafjallajökull. C'est les montagnes des îles.
Nous avons quitté Reykjavik ce matin à 9h, c'est encore la nuit. Une heure plus tard, on voit un spectacle absolument grandiose. Le soleil est en train de se lever, mais alors très très ras à l'horizon. Autour de nous, de la neige, des herbes jaunes pâles qui dépassent légèrement, beaucoup, beaucoup de vent, à tel point qu'on ne va pas pouvoir sortir de la voiture. Et avec vous, Henri, nous allons partir vers ce que je vais appeler par pudeur le volcan, pour éviter tout de suite des prononciations trop compliquées. Nous allons où exactement? Nous sommes à quelle distance de Reykjavik?
Nous venons juste de franchir un col qui est à peu près à 25 km de Reykjavik. Et le volcan, la zone du volcan, on l'aperçoit puisqu'elle est, elle était en gros à 120 km de Reykjavik elle-même. La montagne, le centre d'où c'est parti. Et on a une chance extraordinaire ce matin, malgré le blizzard qu'on a rencontré sur le col, qui était assez étonnant puisque, vous l'avez vu, on avait très peu de visibilité. Le vent souffle à près de 20 mètres secondes, c'est un petit début de tempête. Et là, nous avons la chance de passer sous le nuage de tempête et d'avoir le soleil en plus avec les îles Vestmann qui sortent de la mer. Et la zone de ce volcan Eyjafjallajökull, au nom magnifique, qui veut dire en fait tout simplement le glacier des montagnes des îles, les îles Westman qui sont en face, et les montagnes de Eyjafjöll, les montagnes des îles, se trouvent devant nous, et avec le petit nuage que nous apercevons, on pourrait même penser que l'éruption a repris, puisqu'on dirait que de la fumée sort encore de la montagne. Et nous allons partir vers l'est. Il n'y a pas de neige annoncée sur les routes, mais sur les hauteurs, bien sûr, avec le blizzard. Et puis avec cette lumière étonnante qu'on ne trouve que sur les pays de l'Arctique, au-dessus de 65-66 degrés nord, cette lumière rase qui va durer très longtemps et qui représente à peu près, nous sommes en novembre, qui représente à peu près le soleil vers midi et demi, une heure de l'après-midi, juste à la fin du mois de décembre, au cœur de l'hiver, quand il fait jour seulement de midi moins le quart, quand le soleil se lève de midi moins le quart à 15h15 à peu près.
La voiture bouge beaucoup.
Nous sommes arrêtés avec moteur coupé, ce qui fait que on ressent toutes les sensations du vent. Celle-ci fait une bonne tonne et demie, mais elle bouge pas mal. Et par tempête, il est honnête de dire qu'elle s'envole régulièrement, ce genre de voiture, puisque lorsque le vent atteint 200 km/h, là, il n'y a plus de notion d'équilibre ou d'autre chose. Et la seule chose intéressante à faire, c'est de rester à l'abri. Pour aujourd'hui, ça devrait aller. Notre tempête ne devrait pas dépasser 20 à 25 mètres secondes. Mais au-dessus de 40 ou 50, tout le monde, croyez-moi, reste prudemment à l'abri. C'est une question de vie, tout simplement.
Björgvinsdóttir, vous êtes allé voir le volcan au moment de l'éruption. Est-ce que ça fait, vous avez fait partie de ces gens qui sont allés voir?
Oui. Donc je ne sais pas si vous parlez de. Enfin, il y a eu deux éruptions avec peu d'intervalle. J'ai été jusqu'au premier. Ça, c'est, on appelle ça une éruption touristique parce que ça, c'était pas vraiment de danger. J'étais à quelques mètres d'une fissure d'où sortait de lava chaud, c'était incroyable. C'était la première fois que je le voyais de si près, une éruption, et c'était déjà l'odeur, tu l'entends bien avant de le voir. La deuxième éruption, celle de Eyjafjallajökull, ça c'était bien autre chose, c'était vraiment pas une attraction touristique. J'ai pris la route numéro 1 qui longe la côte sud, donc je suis passée et j'ai vu cette énorme éruption. On voyait rien, quoi, c'était cendres qui tombaient. Ça, c'est bien plus flippant et bien plus troublant.
Arman Höskuldsson, nous sommes avec vous dans le département de géologie à l'université de Reykjavik. Quelle est la première éruption volcanique sur laquelle vous ayez eu à travailler?
La première que j'ai survécue, c'est sur Tsei, que j'ai vue de loin, bien sûr. Mais la première que j'ai de près, c'est avec la 70. Et ensuite, la meilleure expérience, c'est en Stromboli. La première fois que je suis allé en Stromboli, ça a été bien impressionnant. Oui.
Est-ce qu'on peut dire que l'Islande est au fond une terre de volcans de toute façon?
Ah oui, 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 Islande c'est 90% volcanique.
Alors les avantages, c'est qu'on a de l'eau chaude facilement?
C'est un avantage, oui. On peut chauffer les maisons, on est bien dans le nord où il fait froid comme aujourd'hui. Et là, c'est un avantage d'avoir de l'eau chaude.
Et les inconvénients, ce sont des éruptions de temps en temps?
De temps en temps, mais c'est pas. De toute façon, la plupart des volcans sont bien à l'intérieur. Donc, dans la plupart du cas, la population n'a rien à craindre. On a beaucoup de sismomètres installés un peu partout dans le pays et surtout dans la zone volcanique. Ensuite, on a un réseau de GPS permanent dans la nature. Et ça va nous montrer dès que la magma commence de monter vers la surface. Mais comme tout ce que les hommes font, c'est pas 100% sûr. Hein.
Quand on nous dit « je reçois un SMS en me disant « évacuez la ferme et vous avez 20 minutes pour évacuer », est-ce que cela veut dire, Armanos Kulson, qu'on a le moment où vous êtes sûr que l'éruption est là, c'est 20 minutes avant que l'éruption ait lieu ?
Ça dépend d'un volcan à un autre. Dès que la Terre commence à trembler au-dessus du Hekla, on sait qu'on a 1 heure à 30 minutes avant l'éruption. Et donc là, ce n'est pas bien d'être au sommet du Hekla, parce que ça veut t'en as besoin de 2 heures, de 10 ans. Mais un volcan comme il a fait la Yogurt, on sait qu'il était en train de se réveiller à partir de 1994. On sait là que le volcan est en train de se préparer. Quand on mesure le tremblement de terre, si on a un tremblement de terre, on va nous dire quelque chose. Mais quand on a dizaines ou centaines de tremblements de terre chaque heure, c'est difficile de dire lequel indique que la magma elle a commencé de sortir par haut.
Les premières éruptions, en fait, c'était à Fimbulhals, sur le col entre Mirtashiokotl et Yafatlayokotl. Et ça, ce col-là, c'était un col un peu comme... quand on fait l'Andmanalagar et on finit là, c'est un peu comme Chamonix-Charmat. C'est vraiment le trajet le plus connu en Islande. C'est un peu l'autoroute, quoi. Et c'est quand même formidable que cette autoroute, elle a complètement changé. Et il y a cette histoire aujourd'hui avec les volcans qui est chaude, qui a complètement changé le paysage, etc.
Non, le premier volcan, là, c'était bien.
C'est pas le volcan, c'était la faille.
Oui, la faille, quoi. Là, il y avait le feu, la glace, et tout était bien, quoi. On a été la nuit, nous. Glacier, il faisait moins 20 au mois de fin mars, c'était le 2 avril, je crois, on l'avait dit là-bas. Et on allait un kilomètre plus bas, ben, il faisait entre 45 et 50 degrés, quoi. Alors les boulets, les cailloux de lave roulaient, mon fils me disait de prendre les photos, et puis je voyais des boulets qui roulaient entre mes jambes. Alors il dit, mais bouge pas papa, mais c'est difficile de pas bouger là, hein. Ouais.
Quand vous étiez petite fille, Anna, cette région près du volcan, vous la connaissiez bien ?
Oui, je suis née là-bas et j'ai habité jusqu'à 17 ans. Quand j'étais toute petite, j'ai adoré, parce que c'est vraiment la campagne. C'est des sables jusqu'à la mer, quand on regarde le sud, et on montait la tête vers le nord, c'était les montagnes et les glaciers. C'est 4 km entre la mer et les montagnes de 1600 mètres. C'était vraiment un terre de jeu pour les enfants magiques. Il y avait les elfes partout. Et moi, j'étais beaucoup avec mon grand-père, avec les moutons. J'avais des moutons à moi. C'était vraiment la vie comme ça.
Alors, quand vous étiez petite, Anna, est-ce que ce volcan, il y avait des histoires autour de lui ? Est-ce que c'est une présence que vous sentiez ? Est-ce qu'on vous avait raconté des tragédies déjà liées à ce volcan ?
Oui. On savait que c'était un volcan. C'était tout d'abord et surtout un glacier. Mais on savait que c'était un volcan. Mais dans ma tête, c'était un volcan qui était mort. J'imaginais jamais, à aucun moment, que j'allais vivre une éruption de ce volcan.
S'est passé, Arman, cette éruption en tant que géologue, vous avez dû la suivre de près, dès le début sans doute.
Bien sûr, dès qu'on a commencé à approcher, on a vu une belle éruption dans une petite fissure basaltique avec les jets fire fountain, donc une fontaine de lave qui montait vers le ciel. Et c'était bien joli, c'est un volcan rouge, donc c'est pas dangereux. Et bon, on a eu l'opportunité pour échantillonner, pour savoir qu'est-ce que c'est qui sort de la Terre. Et ensuite, commencer les études sur les laves, comment ça bouge, estimer leur viscosité, etc., etc. Et donc là, il fallait essayer de contrôler tous les touristes qui sont montés là-haut.
Qu'est-ce que vous craignez ?
Ce qu'on craint, c'est que donc, cette éruption-là est située au milieu de deux calottes glaciaires. Et il fallait patienter beaucoup pour que le magma rentre dans le glacier. Et dès que je rentre dans le glacier, le basalte devient beaucoup plus explosif. On a un panache de cendres qui monte vers le ciel et on commence à avoir les inondations à cause de la fonte de glace. Et donc c'est ça le problème majeur pour nous, ou les habitants autour du volcan islandais. Et ensuite, c'est le panache qui peut monter jusqu'à 16 à 20 km de hauteur. Et donc là, c'est plus Islande qui joue, là, c'est toute l'Europe, c'est tout le monde. Hein, c'est...
qui a été, je dirais, touché déjà par l'éruption ici. Les vents étaient en général vers l'est. Ils emmenaient la poussière et la cendre vers l'est. Donc là où nous arrivons, à quelques kilomètres de Kvolsvöllur, eh bien c'est là qu'était un peu le terminus des gens qui venaient voir quelquefois au plus gros de l'éruption.
Ça a été un spectacle pour l'Islande aussi, d'une certaine façon.
C'est une chose un peu peut-être désagréable à dire pour les gens qui en ont pâti en Europe, mais oui, il y a eu des embouteillages sur cette route où nous avons croisé 3 voitures ce matin, la route nationale numéro 1. Ça peut paraître un peu fou quand il y a eu l'éruption du mont Hekla, qui est juste à côté aussi, en l'an 2000. La presse, même la presse scandinave, avait déclaré « ils sont fous ». Ils sont fous parce que dans un pays normal, la police va interdire l'accès et fermer les routes. Mais chez eux, en Islande, là-bas, la police ouvre des routes et aide les gens à aller vers l'éruption. Et le plus étonnant de l'éruption, c'est ceux qui avaient des très grosses jeeps et qui ont pu monter avec d'énormes jeeps sur le glacier et donc aller se poser à quelques dizaines de mètres des giclées de lave. Et ça, c'est des moments uniques, je pense, dans une vie d'homme.
Amener du monde et puis oh là là, tout la police était là-bas pour surveiller les gens. Il y avait peut-être 2500 personnes, vous vous rendez compte? Et puis il y en a qui ils viennent près de les laves, des laves brûlantes. Hein, on a une américaine, je vais vous montrer les chaussures.
Oui.
Heureusement qu'il y avait la semaine en fer, hein. c'est dingue, et on se rend pas compte. Hein. Ça ruisselle partout.
Alors ils ont évacué les gens, puis le jour après, il y avait le double, quoi. Hein, voilà.
Mais regarde ça, t'as vu? Les gens marchaient sur la. Hein? Comme ça?
Oui, la semelle est transpercée. Ouais,
oui, en fait. Heureusement qu'il y avait la truc fer.
Ah oui,
mais les gens, oui, mais il y a eu énormément d'accidents, moins 70. Pas mortels, mais. Alors, ça a duré 3 semaines, le truc rigolo, là. Et puis, ça s'est éteint. Et le jour d'après, là, ça a commencé.
Á, ég bara segja þér frá þessu það. Já. Við erum að horfa hérna núna á strókin og hrossin sem voru rekin úr stróknum aðan.
Là, on regarde le reportage qui a été fait sur le début de l'éruption, reportage des Lois, et on aperçoit le panache de fumée et les chevaux qui s'en vont, qui fuient pour aller vers l'ouest, puisque le danger est toujours de manger de la empoisonnée. Donc on les a fait partir de suite.
Og hérna var sko veggurinn, hann stoppaði bara hana. Þetta var bara keirinn í vegg bara.
Là, sur l'image, on a vu comme un mur, ce mur de cendre obscur dans lequel on plongeait quand on partait vers l'est. Là, on est dans une voiture, enfin, les images montrent une voiture qui a traversé le mur de cendre qui venait de tomber. Et c'est vrai qu'on aperçoit à peine les phares d'une voiture en face, il n'y avait rien à voir, des gens étaient garés de tous les côtés.
Eins og þessu, þá verðum bara lappa þarna heima, það allt bara svart og grátt og ógíslegt heila.
Là, comme on voit, le reporter rentre chez nous, dans la maison ici, et autour tout est gris, tout est noir.
Og On est pas là avec toi, la maman.
Là, c'est ma mère qui est interviewée, qui raconte ce qui se passe à l'extérieur.
Et
là, on ne pouvait pas sortir sans avoir un masque pour pouvoir respirer, simplement. Il y a tellement de poussière partout.
Et
là, tout le monde a décommandé. Regardez, là, on voit sur l'image la poussière qui rentrait dans la maison. Tout était envahi de poussière chez nous, partout.
Pour les fines oreilles, ce n'est pas vraiment de l'islandais, puisque c'est un reportage danois, en fait, qui a été réalisé ici, à l'hôtel Anna. Alors, nous sommes avec vous à l'hôtel Anna, Einar. Devant nous, il y a une photo, après ce qu'on peut voir sur l'ordinateur, une carte postale, que je vais vous laisser nous décrire à nouveau.
C'est une photo qui est prise au tout début de l'éruption. On voit encore que tout l'environnement autour de la ferme est vert. Et le panache de fumée part donc vers l'est. Après, il a fait demi-tour à cause du vent. Et là, tout est revenu se poser sur nous. Et ça a commencé.
Donc là, on est en mars 2010.
April.
Non, ça s'est arrivé au mois d'avril, en fait. Début avril, oui.
Est-ce qu'il y avait une odeur particulière ?
Oui, il y avait l'odeur du soufre, bien entendu. Et de temps en temps, quand on respire mal, on sait que c'est l'odeur du soufre qui empêche de respirer.
Je suis retournée là-bas juste pour le nettoyage, quoi. Dans tous les coins, il y avait des centres, mais super fins, dans tous les coins de la maison. Et puis, voilà, il y avait des gens qui étaient plus cool que des autres. Il y avait des gens qui paniquaient, qui disaient, au bout de 3 jours, là, on ne peut pas vivre ça. Et je vais emmener tous les bêtes et eux-mêmes ailleurs. Et tous les enfants, le plus petit, sont partis très vite. C'est la vie des gens, on ne peut pas sortir pendant des jours. Dès qu'on sort, on est obligé pour avoir les masques. Et on ne sait pas quand ça s'arrête. Ils sont forts, les fermiers, ils s'entêchent, je trouve. J'ai des gens qui appellent pas tous sa grand-mère quand on dit ça en Islande. On n'appelle pas tout nos grand-mères. Voilà.
On est chez vous, monsieur Olafur Eggertsson. Vous êtes celui qui a sans doute le plus vécu les retombées de cette éruption. Merci de nous recevoir. C'est le petit matin. Vous venez de soigner les bêtes. Et dans vos mains, des photos que vous allez nous commenter.
Ça, c'est le 6 avril 2010, dans l'après-midi. Le glacier vient de s'ouvrir et quand le brouillard a disparu, voilà ce qu'on a découvert.
Alors là, on voit votre ferme complètement recouverte quasiment par un nuage énorme gris.
Là, c'était incroyable. 3 jours après, quand on est revenu pour s'occuper des bêtes, on ne voyait strictement rien. Même pour retrouver la ferme, on a dû utiliser le GPS de la voiture tellement il y avait de cendres et de fumée.
Vous aviez laissé vos animaux dans l'étable ?
Oui, on avait passé une journée à isoler les fenêtres, à tout calfeutrer, et puis nous sommes partis. Les bêtes étaient calmes, en dépit de toute la poussière qui est quand même rentrée dans l'étable. Là, sur cette photo prise d'avion, c'est la ferme après 4 jours d'éruption. Un paysage de cendres et de scories.
En gros, on voit du noir et juste les toits rouges.
Le vent avait tout dispersé, mais il restait partout une couche noire, épaisse, d'au moins 5 cm.
La deuxième période, donc deux jours après, donc ça recommence, mais cette fois-ci, c'est au sommet du volcan Eyjafjallajökull. Eyjafjallajökull a une petite calotte glaciaire. Donc on a déjà prévu qu'on va avoir une panache de cendres, mais le deuxième danger, c'est que la magma de Eyjafjallajökull, c'est plus de basalte. Là, on attend de voir du dacite, du rhyolite ou quelque chose beaucoup plus explosif. Et ça aide le cas, bien sûr.
Alors ces cendres, elles sont composées de quoi?
Ces cendres sont composées de dacite. Cet acide s'est mélangé avec le basalte, parce que c'est du basalte qui monte de la manteau. Et là, on mélange tout et on fait un cocktail assez explosif. Et ensuite, on envoie tout ça vers la surface. Et dès que ça arrive à la surface, ça rentre le glace. Et on multiplie l'explosivité. Et donc, pour les premières jours, ça a été très explosif. Hein. Le volume qui sortait doit être quelque part entre 400 à 900 mètres cubes par seconde. Pour le magma, ça c'est assez important. Mais c'est pas... Parce qu'en fait, cette éruption était toute petite. Hein. Il ne faut pas oublier ça. Ça a été toute petite. C'est une petite éruption qui est presque grande parmi les petites. Mais ça a été bien explosif, et ça, on a produit, ou la volcan a produit, beaucoup de particules très très fines qui ne voulaient pas tomber par terre. Donc ces toutes petites particules restent en solution dans l'air et flottent jusqu'à l'Europe. Et ça a été surtout le problème avec l'Europe, c'est ces particules toutes fines.
Elles sont dangereuses ces particules?
Oui, c'est dangereux parce qu'elles sont tellement fines qu'on les respire facilement. Et particules comme ça, qui on respire, ça ne sort pas. Hein. Une fois dans le poumon, ça reste dans le poumon. Et donc, dans les cas comme ça, il faut absolument porter un masque pour essayer de diminuer la quantité de gaz qu'on respire.
Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes revenu à la ferme la première fois?
Quand j'ai quitté la ferme, je ne savais pas à quel point ça serait difficile, éprouvant. Après, l'herbe a repoussé très vite, la couleur noire attire le soleil, et la terre était très chaude en dessous. Donc l'herbe a poussé vite. On a fait une première coupe mi-juin sur nos 35 hectares. Et cette herbe sans engrais mais enrichie par les cendres a donné une belle récolte.
Et que les bêtes peuvent manger, c'est pas toxique?
Évidemment, ce n'était pas la même chose qu'une herbe pure. Mais nous avons fait faire des analyses et elles ont montré que l'herbe était sans danger pour les bêtes. Il y avait un peu de fluor, mais pas dangereusement, pratiquement pas de soufre, et le fer était dans des quantités autorisées. On a quelquefois jusqu'à 50 hectares de blé ou de céréales. Et cette année, nous n'avons pu planter que 15 hectares de blé. Et ce grain est actuellement moulu pour faire le pain des boulangeries d'Islande.
Alors, vos impressions de ce volcan
Ben c'est impressionnant parce qu'au fond, à part la neige qui est un petit peu grise, ouais, on a l'impression que tout est rentré dans l'ordre très vite. Je m'attendais à voir une zone complètement dévastée.
Oui. Elle était assez impressionnante quand il y avait le gris. C'est vraiment une impression de fin du monde ou après la fin du monde. C'est comme une peinture assez méchante, méchamment grise, qui a été mise partout. Mais comme c'est très fertile, il y avait au mois de mai des petites herbes, mais d'une couleur verte, comme au premier jour du monde. Une verdure. comme une herbe folle de joie de vivre. Là, c'est impressionnant. Quand on voit la couleur verte, étrange, reprendre le dessus de la grisaille atomique, quoi. On a l'impression que tout est foutu. Parce qu'il y a l'uniformité du gris.
Qu'est-ce que ça représente, Sigurdur Pálsson, en Islande, dans l'imaginaire, l'éruption d'un volcan comme celui-là? Est-ce que ça se relie à des histoires, à des poèmes, à de la littérature ou pas du tout?
Comme vous savez, géologiquement, c'est un pays en chantier. Il n'est pas tout à fait... La création n'est pas terminée. Et les dangers des volcans, c'est souvent indirectement qu'on a souffert. On peut courir et le pays est grand, donc il n'y a pas d'habitation tout à fait à côté. C'est pas ça. Mais, par exemple, il y a 200 ans, il y a une grande famine suite à une éruption. Pourquoi? Parce que les cendres, quand elles retombent sur l'herbe, et il y a du matériel empoisonné,
toxique,
qui empoisonne le bétail. D'où une famine, d'où un pourcentage assez impressionnant de la population qui est morte en une année. Enfin, les éruptions des volcans, ça fait partie de notre psyché. Enfin, tout peut arriver.
Vous aviez été préparé à cette éruption par des histoires qu'avaient pu vous raconter vos parents, vos grands-parents, par des légendes qui seraient liées à la montagne?
En fait, aucun Islandais n'a vécu l'éruption de cette montagne, précisément. Mais mon père avait vécu l'éruption du Katla en 1918, Ekla en 1947. Et je me souviens qu'il nous racontait qu'au moment de cette éruption, tout était devenu noir, que pour aller à la ferme à côté, on ne voyait pas un mètre, que les hommes devaient se tenir aux barrières pour s'orienter. Et quand il racontait ça, on lui disait « Mais oui, bien sûr, c'est amusant ». Tu as une autre blague comme ça? Parce qu'on ne le croyait pas du tout. Et pourtant, c'est ce qui nous est arrivé.
Comment était la vie pendant cette éruption, la forêt Gerdson? Comment est-ce que la vie s'organisait? Qu'est-ce que vous entendiez? Qu'est-ce que vous ressentiez?
Ce n'était pas facile. Mais pour moi, rester à la ferme était essentiel. C'était impressionnant. Jour et nuit, il y avait du bruit. Le volcan grondait. Rien qu'avec les détonations... Tenez, voyez, les rideaux, là. Ils bougeaient aux fenêtres. Les portes tremblaient. Les fenêtres vibraient. D'énormes rochers de la taille d'une voiture volaient sur la montagne et on allait se coucher. Ce qu'on craignait le plus, c'était les crues que la fonte du glacier pouvait provoquer. Nous avons construit une digue de 2,8 km pour la rivière, là, derrière nous. Sinon, tout aurait été noyé. Il n'y a eu que le fond là-bas de dévasté. La crue a finalement ravagé 80 hectares. Mais l'État va réensemencer ces champs disparus au printemps prochain. L'idée est de stabiliser les sols, d'éviter qu'avec le vent, la poussière s'envole. Ce sera au printemps 2011. Et là, vous avez peut-être vu en arrivant, toutes les montagnes sont grises. Au fil du temps, ces cendres vont encore ruisseler avec la pluie ou voler sur nous, comme c'est arrivé il y a 3 jours. Il y avait tellement de cendres qu'on n'a pas pu laisser les enfants dehors. La suite, ça va être des tempêtes de cendres chaque fois que le vent viendra du nord. Et pendant des années.
Après l'éruption, en fait, parce que ça fait quand même maintenant une bonne vingtaine de minutes qu'on est sur un chemin de pierre extrêmement pentu, difficile, la neige qui souffle sur la route, et on s'enfonce dans des montagnes, dans un pays tout blanc, où on a l'impression que ni homme ni animal ne peuvent survivre.
C'est tout à fait exact, car il y a, comme vous le voyez, ni homme ni animal qui pourrait survivre ici, mais on a beaucoup de chance d'avoir cette Jeep avec du chauffage et du chocolat à l'intérieur, puisque les conditions sont au-delà de ce que l'homme à pied pourrait faire. Le vent souffle effectivement à 80 ou 100 km/h et il y a formation de congères très rapidement. On va arriver à peu près à 1000 mètres d'altitude, quelque chose comme ça. Et si encore je peux passer ce passage qui dérape pas mal, et on va passer une petite vitesse. La neige commence à être bleutée en ce moment. C'est le moment où le soleil est le plus à l'horizontale avant de se coucher. Et on arrive à peu près à 900 mètres d'altitude au dernier refuge au bord du glacier. Un spectacle grandiose, c'est vrai, d'être face à un volcan grondant au bord d'un glacier noir car recouvert de cendres. Et on peut le dire, comme vous voyez, au bout du monde. Voilà, regardez, quand on se trouvait ici à ce refuge, nous sommes à 900 mètres. Au mois de mai, le 10 mai, en après-midi avec un soleil magnifique, et qu'on avait roulé dans les cendres jusque-là, et qu'on avait l'éruption devant nous, avec ce grondement sec, terriblement sec du volcan, ce sont des moments inoubliables qui nous font sentir à quel point on est petit. Regardez les congères là, qui se forment autour du refuge, à quel point on est petit, mais à quel point aussi la nature est prodigieusement belle et puissante.
On tente une sortie ?
On va être très prudent avec les portes, on s'est mis à l'abri du refuge. On va bien s'habiller, tenter une sortie, oui. Pas mal de...
Là, il faut vraiment...
Oui, là, le vent est important. On est surtout en altitude et il faut bien, bien s'équiper. Voilà, la porte pousse derrière. Ouh. Voilà, attention, je vais refermer.
Vous nous racontiez votre promenade, enfin une promenade un peu sportive, vers le lieu de l'éruption.
C'était le 17 septembre, donc en plein automne, qui généralement montre un temps plutôt hostile, mais là il faisait vraiment très très beau. Et nous avons donc fait, nous sommes arrêtés auprès du garde pour le signaler de notre présence, bien sûr. Personne ne monte sans se signaler d'avance. Et nous avons pris, avec notre chien, d'ailleurs notre chienne, un labrador, Bella, nous avons pris donc le chemin, qui est très très bien balisé d'ailleurs, vers le col de Fimbulhaus. Et la première vision, c'était des vapeurs sur le sol. Donc nous savions que ce n'était pas des vapeurs d'eau, c'était la vapeur due à la chaleur. Et on se demandait où sommes-nous, où est l'ancien sentier, où est l'ancienne balise. Mais par chance, le sentier a été remis, retracé, bien rebalisé, de façon à ce que les gens puissent aller voir ce lieu sans danger, en fait. Et nous avons commencé à circuler entre les blocs de lave, entre cette chaleur. Rien que le fait de mettre la hauteur de mon ongle dans le sol, on trouvait tout de suite la chaleur. Et c'était vraiment de la chaleur, c'était plus de la chaleur, c'était de la brûlure. Donc il ne fallait absolument pas déplacer les pierres, il fallait faire vraiment très attention et continuer son chemin jusqu'à ce qu'on voit les deux cratères, les deux nouveaux cratères, qui s'appellent donc Makne et Mode. Et Makne et Mode sont les fils du dieu Thor. Et ces deux petits cratères, on a calculé, je pense à la fin avril, ils avaient calculé que le cratère faisait à peu près 82 mètres de hauteur. Et on va jusqu'au milieu. Et là, on arrive à des couleurs incroyables. On arrive à du jaune ocre, à du rouge, à du noir, à du marron. On a toutes les couleurs, en fait, d'une terre brûlée. Et de plus en plus de chaleur. Et c'est là où on a eu vraiment un regard assez incroyable par rapport à notre chienne. Hein, parce qu'elle s'est arrêtée et a eu des yeux apeurés, enfin, des yeux angoissés. Elle ne voulait ni continuer, ni s'arrêter, et elle ne savait pas vraiment quoi faire. Donc on l'a mise de côté un petit peu, nous avons continué. Nous avons monté sur Makne, et c'est assez incroyable parce qu'il y a des craquures, des petites fissures sur le volcan, et on voit en fait le rouge flamboyant en dessous. On voit, je ne sais pas à quelle température, 800 degrés à peu près. Donc attention, ne rien perdre de sa poche parce que cela pourrait s'enflammer de suite. Et c'était assez extraordinaire de voir une nouvelle terre, deux montagnes nouvelles et cette température qui était vraiment incroyable. Et là, nous avons vu un autre spectacle aussi assez intéressant. Nous avons vu la rivière que nous voyons toujours couler de cette gorge, donc Kwanaorkil, donc la rivière qui s'appelle Kwanaor. Nous l'avons vue blanche, comme une coulée de lait dans la gorge, alors qu'elle est toujours bleue, limpide, bleue, claire. Et nous l'avons vue toute blanche. Et en fait, tous les galets, tous les cailloux, tous les blocs de lave qui étaient dedans étaient complètement recouverts de kizil, en fait.
Ouais.
Silice. Et c'était vraiment très très beau à voir. C'était toute une rivière avec des gros galets tout blancs, tout bien polis. Qui était vraiment extraordinaire.
C'est rigolo, non ?
Bon, alors on est sorti. Impossible d'enregistrer à cause d'un vent à décorner des bœufs. Un froid intense. J'ai les yeux qui me piquent et qui pleurent, j'ai des mains complètement gelées. Et le sentiment que la nature là se déchaîne et qu'on n'a absolument rien à y faire.
Et là, ce n'est même pas encore le gros hiver, c'est mi-novembre, le début de l'hiver. Nous sommes donc à près de 1000 mètres sur un glacier islandais, au bord du cercle polaire. Effectivement, l'homme n'a rien du tout à faire là. La nature est plus forte que lui.
Alors, qu'est-ce que vous voyiez quand vous étiez ici au mois de mai, Henri ?
Ce 10 mai qui a été une très belle journée, pardonnez-moi les yeux qui piquent aussi, ce 10 mai qui a été une belle journée, quand je suis monté là, eh bien, on n'avait pratiquement pas de vent, par contre le ciel était d'un bleu magnifique comme devant nous en ce moment, et on avait le volcan juste en face sur la gauche, donc l'énorme panache de fumée qui était au maximum autour de 8 à 9 km de hauteur dans le ciel. Un peu de poussière, mais c'était très respirable, juste le bord, comme on dit, donc le ciel était clair. Par contre, le panache lui retombait de suite sur les fermes, donc là où les gens avaient des difficultés. Et c'était un petit peu étonnant de se dire, au fond, ce n'est que ce petit volcan qui fait un peu de fumée, qui retombe de suite, là, avec ses cendres, sur 30 km. C'est ce volcan qui handicape toute l'Europe, tout le ciel européen. C'était un peu étrange vu d'ici, mais comme je disais tout à l'heure, quand on n'a pas de danger immédiat, c'est un spectacle inoubliable, surtout le son. Je crois que le bruit d'un volcan qui craque en permanence et explose est quelque chose qu'on n'entend jamais ailleurs. Ce n'est pas comparable à un éclair, à un tonnerre. C'est sec, c'est violent, c'est puissant. C'est la voix de la Terre, la voix du centre de la Terre.
Il y a combien de bêtes ici au Lafour?
Voilà, j'ai 60 vaches qui donnent 3000 litres de lait par an. J'ai aussi une trentaine de bœufs pour la production de la viande. On vient d'installer une treilleuse automatique ultra moderne. Les vaches viennent toutes seules et se font traire elles-mêmes.
Alors, est-ce que ces vaches, elles ont senti quelque chose avant l'éruption du volcan, justement ?
Non. Dans les tables, j'ai pas l'impression. Non, je l'ai pas senti. Mais par contre, dès qu'il y a eu l'odeur et la poussière, elles sont devenues bizarres, étranges.
C'est la fameuse odeur d'œuf pourri ?
Non, c'est pas vraiment ça. Avant cette odeur de soufre, ce qui a été saisissant au début, c'est l'absence totale de son, de bruit. Oui, comme un monde sans bruit. C'était tout à fait étrange et dérangeant. Par contre, dans les tables et dans la maison, il y avait la vie et petit à petit on s'est habitué. Ensuite, le bruit a surgi de la montagne. Oui, il a surgi de la montagne après tout ce silence écrasant.
Est-ce que vous êtes allé voir, puisqu'apparemment il y a eu un espèce d'élan comme ça, l'éruption récente, Roland Racier ?
Oui, oui. Moi, je, comme tout bon Islandais, on a pris la voiture, on a été voir, on a été le plus loin possible. Ça a été en fait une catastrophe naturelle que les Islandais ont pris avec beaucoup de philosophie, comme dans ces cas-là. Je pense qu'aussi l'éruption a... Après toute cette catastrophe artificielle, cette crise économique, l'éruption a soudé un peu plus la nation. Et c'est quelque chose de très important.
Pourquoi tout le monde garde son calme devant une éruption ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, l'activité volcanique fait partie de la vie de tous les jours, puisqu'il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Il y a aussi le fait qu'en Islande, rien n'est pire que de s'apitoyer sur soi-même. Donc, on doit toujours garder un calme olympien, ne jamais se plaindre. De ce point de vue-là, le caractère islandais est très différent de celui des Français. Et aussi, il y a le tourisme. On sait que... il faut donner au volcanisme un aspect souriant et passionnant, mais sans danger.
Vous nous avez fait peur, Gérard Lemarquis, par un article paru dans Le Monde où il était question d'une nouvelle éruption qui risquait d'arriver.
Oui, elle va arriver. Il se trouve qu'il y a eu une débâcle sous-glacier. C'est un lac qui se trouve sur le plus grand glacier d'Islande, 8000 km², l'équivalent de la Corse. Bon, le lac s'est gonflé. Ça fait pression, ça a soulevé les glaces du glacier, l'eau s'est écoulée. Et quand cela se passe, cela signifie toujours qu'il y a en dessous une activité volcanique intense. Il y aura donc une éruption, vraisemblablement, dans un très proche avenir. Quand ? On n'en sait rien.
Arni Thorgilsson, est-ce qu'à la Croix-Rouge, vous évoquez la possible éruption du mont Katla ?
Ouais.
Non.
Katla.
On ne pense pas au Katla. C'est un mot interdit. On n'a pour l'instant pas encore déclaré officiellement la fin de cette éruption, celle de Eyjafjallajökull. Elle s'est interrompue, mais elle n'est pas déclarée terminée. On sait que ça s'agite encore un peu et on ne sait pas trop ce qui peut se passer, mais le Katla, on ne veut pas y penser. À la dernière réunion qu'on a eue et à chaque réunion, on reprécise bien que c'est un mot interdit.
Alors, quelle va être la suite de l'histoire ? Vous n'êtes pas devin, Arman Oskulsson, mais des mauvaises langues disent que le réveil de ce volcan pourrait faire que dans un an ou même avant, il y ait d'autres éruptions et peut-être d'importance beaucoup plus grave.
C'est difficile à dire. C'est le seul éruption que l'on connaît bien, c'est celle de 1821-23, le même volcan. Et là, on avait deux épisodes assez importants. Et donc, le premier assez explosif, ensuite une phase où le volcan dormait pour 4 ou 6 mois, et ensuite ça a repris. Et donc, si on réfléchit à cette histoire-là, donc, le champ, la possibilité que le volcan va rentrer dans une éruption une autre fois est très forte. Mais ça ne va rien dire, en fait, parce que c'est qu'un exemple qu'on connaît. Ça peut que l'éruption s'est terminée, mais il faut se rappeler que tout le conduit, tout le système, le tuyage de magma vers l'eau est chaude. Et ça veut dire qu'il ne faut pas beaucoup de magma de manteau pour que tout le système se réactive. Ça, c'est ce qu'on craint, mais ça ne veut pas dire que ça va faire comme ça. Si ça va être plus explosif ou moins explosif, ça, c'est très difficile de dire. Katla, c'est complètement différent, parce que ça, c'est un volcan basaltique qui traverse une glace, une glace relativement épaisse, qui fait 4 à 5 cm d'épaisseur, le glacier. Et ça veut dire qu'on fait beaucoup de panache volcanique, et cette panache monte jusqu'à 15 à 20 km. Et donc, on va envoyer plus de cendres vers l'Europe, probablement. Mais la cendre qui se produit en Katla, elle est plus lourde que la cendre qui se produit à Eyjafjallajökull. Qui veut dire que si tout va normal, si tout est normal, la cendre de Katla va tomber plus rapide par terre que la cendre de Eyjafjallajökull. Et donc on va avoir moins de problèmes en Europe. Mais ça sera difficile à dire. Bon, l'Europe, il faut accepter qu'il y a un volcan dans le jardin. Ça fait des problèmes.
C'était En Islande, les gens du volcan, avec Anna-Kristin Asbjørnsdóttir, Henri Kilian Albansson, Björk Bjørnsdóttir, Arman Oskulsson, Philippe Le Bozek, Evelyn Niwarn, Olafur Egertsson, Einar Johansson, Sigurdur Palsson, Gérard Lemarquis, Arni Thorgilsson, Stentor Enarsson, Sylvie Primel. Avec les voix de Christine Jonsdottir, Arnaud Carbonnier, enregistré par Xavier Lévesque. Sons originaux du volcan, enregistré par Doué Landmark. Coordination Christine Gage. Un documentaire de François Test et Irène Omelianenko pour Sur les Docks.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 5 janvier 2011.